Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, demain à 21h sur Canal Plus Foot, et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC, entre les poteaux,
Christophe Cessieux.
Salut à tous, une semaine après la gifle de Dublin et les critiques virulentes qui l'ont accompagné, l'équipe de France repart au combat. Oubliez la douceur de Rome et les brumes irlandaises, les Bleus ont retrouvé Marcoussi où ils se préparent à un rude combat face à l'Écosse. Rien de mieux qu'une bonne victoire pour se remettre la tête à l'endroit, nous dit-on. Mais celle-ci n'est pas cousue de fil bleu face à la nation qui a sans doute le plus progressé en un an. Le 15 du Chardon qui s'avance invaincu au Stade de France après deux succès probants face à l'Angleterre et le Pays de Galles. Et s'il nous refaisait le coup de 2020, dans un instant, on va jouer à se faire peur. La bande des poteaux, composée aujourd'hui de Denis Charvet, qui lui aussi a soufflé quelques jours cette semaine.
On souffle pour mieux repartir.
Et voilà.
Ah oui, s'il te plaît, il y a un gros combat dimanche.
Tu as retrouvé de l'agressivité.
J'ai retrouvé du frais, là.
Tu as pu faire un peu de frais, c'est bien. T'es au top.
Ouais. Comme l'équipe de France.
Bon, cette semaine, c'est au tour de Wilfried Templier de faire une pause. Deux défaites en une semaine, quand même, pour Wilfried. Celle des Bleus, puis du TFC. C'était trop pour un seul homme. Heureusement, il est avantageusement remplacé par Julien Landry, qui a lui a plus de ressources. Salut Julien.
Salut messieurs.
Salut Julien.
Le patron, je croyais que les patrons ne se reposaient jamais, ne soufflaient jamais. Mais oui, à Middle, oui, à Middle, ça se passe comme ça. Notre ami Manu Massicard est parti quelques jours. Lui aussi, avantageusement remplacé par Pierre-Laurent Gou. Salut Pierre-Laurent.
Salut, il est parti avec Wilfried faire du ski dans les Pyrénées pendant 3 jours.
Tous les deux. Salut Pierre-Laurent.
Ils vont chasser l'ours. Ils vont chasser l'ours. Enfin, Pierre Amiche n'a pas besoin de souffler, une telle force de la nature. Ça se renouvelle automatiquement. Salut Pierrot.
Bonjour à tous. Je vais pas te mentir, hein. Bien manger, bien dormir, c'est pas trop mon credo en ce moment. Donc bon, on est là, mais c'est plus mon ectoplasme.
C'est ça, les jeunes pères de famille. Comme si tout cela n'avait jamais existé, l'incroyable série de 14 victoires consécutives du 15 de France a été vite oubliée après son interruption plutôt sèche la semaine dernière à Dublin. Les Bleus, qui ont essuyé une bonne semaine de critiques, nous rappellent que rien n'est jamais acquis dans le rugby français. Alors a-t-on été trop dur avec nos Bleus, messieurs les poteaux? Avez-vous été surpris cette semaine par les critiques? Denis, tu n'as pas été le dernier d'ailleurs à critiquer vertement cette équipe de France. Est-ce que
non,
ça t'a surpris quand même ces critiques? En règle, bon, ben voilà, c'est le rugby français.
T'es
hein.
pas bon, t'es critiqué. Quand t'es meilleur, tu as un sens. Comment on a encensé l'équipe de France depuis un an et demi? Non, mais après, voilà, l'équipe de France, c'est pas au mieux en ce moment. Mais je pense que le frais des deux semaines qui viennent de passer, ça va, on va retrouver le sourire, on va retrouver une belle équipe de France.
Tu l'espères?
Je le pense.
Tu y crois vraiment?
Non, j'y crois.
Ouais.
J'y crois vraiment. Je pense que cette équipe de France est un peu fatiguée. Là, j'espère qu'elle a rechargé, elle a repris de la confiance. Et il va en falloir pour affronter l'Écosse.
Exactement. La critique principale, justement, c'était celle de l'état physique de nos rugbymen, qui jouent beaucoup, sans doute trop, mais ça, on le savait déjà, c'est pas nouveau. On a beau en parler, le constat reste toujours le même, on ne peut rien faire, les clubs ont déjà fait beaucoup de sacrifices, on peut pas leur demander plus. Ok, mais alors on fait quoi avec nos bleus, les poteaux? Pierre, est-ce que t'as une idée? On attend la Coupe du Monde et on prie pour que nos bleus ne soient pas trop fatigués en septembre, c'est ça? C'est la méthode Coué?
Non, mais je pense que l'équipe de France n'est pas non plus... On va dire qu'elle aussi a son rôle à jouer là-dedans parce qu'en fait, il y a finalement assez peu de rotation. La concurrence est complètement oubliée aujourd'hui à certains postes de l'équipe de France. Je suis pas pour une remise à plat, on repart à zéro, on vire tout le monde, on repart d'une feuille blanche. Mais j'espère quand même que quelque part le staff va remettre au goût du jour la concurrence. C'est pas un gros mot, c'est pas une insulte. La plupart des grandes équipes qui ont été championnes du monde, ils ont pas été champions du monde à 15. Donc réinstaurer un petit peu de concurrence, réinsuffler un peu de danger, ça peut être pas mal. Et puis surtout, ça permettrait de faire souffler des joueurs à des postes clés. Je pense au poste de 9, au poste de 10, au poste d'arrière, au poste de 8, au poste de talonneur. C'est pas un gros mot de dire que y a des joueurs qui peuvent tenter, peut-être, au moins sur un match ou deux, de gagner leur place.
Ouais.
Je pense que c'est
une bonne solution. Contraire au fonctionnement totalement. De Fabien depuis quelques saisons où il veut donner un nombre de sélections, un nombre de matchs. Il n'arrête pas de répéter que pour une équipe qu'elle soit championne du monde, il faut tant de matchs, tant de minutes ensemble. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'est un peu enfermé dans ce principe-là et qu'on espérait d'ailleurs, Christophe, au début du podcast, entre les poteaux, en se disant, est-ce qu'il va y avoir une ouverture sur ce tournoi? On avait dit que sûrement pas et j'ai l'impression que Fabien, il n'a pas trop envie d'ouvrir le spectre là et qu'il a peut-être 23. Non, mais je suis d'accord, mais je ne dis pas qu'il a raison.
Non, mais Surtout, ça a donné raison longtemps. Donc, c'est oui. vrai que bon, peut-être que ça a eu des limites. Tu as raison de l'évoquer, mais j'en suis pas certain. Moi, j'étais pour cette politique-là. Je crois surtout qu'ils sont cramés, quoi. Que certains ont été cramés, et notamment des tauliers comme Aldrit. On s'attendait pas à ce que mais ils soient moins méformes.
De régime. Et donc, c'est un des rares qui est coaché. Hein.
Et après, t'es aussi piégé par tes choix. Moi, je suis d'accord avec Pierre pour remettre de la concurrence. Je pense que pour répondre à Christophe, si les critiques ont été virulentes alors que l'équipe de France restait sur 14 matchs, c'est aussi la physionomie de la rencontre face à l'Irlande. Mmh. C'est-à-dire que tu le joues 10 fois, ce match-là, tu le perds 10 fois. Ouais. Même si les Bleus ont fait plutôt un très bon match, parfois dans l'engagement, dans l'intensité, mais les Irlandais étaient clairement au-dessus de nous, et c'est ça qui est inquiétant. Et je vais abonder dans le sens de Pierre, notamment sur le banc des remplaçants 6-2, où t'es piégé en fait avec 6 avant et 2 3 quarts. Et en fait, ton 6-2, vu que tu décides sur ces deux premiers matchs que Dupont a juste raison, hein, est indispensable, c'est un 6-1. Parce que tu prends un poste Couillou et le Garek, donc tu prends un pur neuf en remplaçant, mais tu le fais pas rentrer. Et du coup, tu te retrouves où le jour où Ramos est un peu moins bien, à tenter de faire Jalibert, qui traîne les pieds pour aller, qui veut pas jouer ouvreur, qui espérait rentrer de 10 parce que quand il avait remplacé Ntamack en 10 à Rome, ça s'était plutôt bien passé. Et t'es piégé dans tes choix. Et je vais même plus loin, c'est pour ça qu'on a été critique aussi. Pourquoi alors à ce moment-là, tu fais rentrer Makalou à la place d'Aldrit, alors que t'as Cross en troisième qui a pur troisième ligne, alors que Makalou est censé te dépanner s'il y a un souci à l'arrière. Je pense que Fabien je suis entièrement d'accord avec Pierre, a été pris par son absence de concurrence.
C'est des choix qui avaient été loués auparavant. Voilà, c'est ça. On disait, oh là là, quel incroyable coaching, quel magnifique de faire 6-2.
D'accord, mais
Pierre-Laurent, Makalou, il a jamais été là pour jouer derrière. Je suis désolé, quand il rentre troisième ligne, c'était acquis. Donc oui, je veux dire, c'est pas.
T'as quand même le choix.
Oui, t'as
de
le
faire
choix, mais
Cross
oui,
ou Makalou.
D'accord, mais dans la tête de Fabien, mais justement, il joue sur la concurrence. Je suis désolé à vous. Je pense que Makalou, il a gagné sa place sur d'autres rencontres et qu'il est récompensé. C'est pas.
Je pense que Makalou, il va démarrer un match avec le 15 de France dans les 3 prochains matchs là.
Non,
tu
penses... j'ai pas dit ça.
Parce que
dit
parce que la concurrence,
idéal,
c'est ça.
Non. Il est remplaçant idéal, mais c'était pas une surprise de le voir remplacer.
Ouais, mais parce que Denis, je pense que le match de l'Afrique du Sud. Où Makalou, qui est positionné très vite à l'ouverture, ça a été l'arbre qui cache la forêt, et on s'est dit, bon, bah, Makalou, il peut vraiment dépanner à l'aile, et c'est pour ça qu'ils se sont enfermés. Moi, je trouve la chose la plus importante, c'est qu'ils se sont enfermés dans leur banc 6-2. Et surtout que tu fais jouer à juste titre Dupont 80 minutes, donc en fait, derrière, tu n'as plus qu'une option.
Oui,
après, la question, c'est peut-être qu'il faut pas confiance. Non, mais il faut peut-être pas confiance aussi aujourd'hui à Le Garec ou à Couillou, parce qu'on se rappelle qu'en novembre, Maxime Lucu a été coaché plus tôt et qu'il rentrait plus tôt dans la rotation et il dépannait Antoine Dupont. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils ne font pas confiance ni à Couillou ni à Le Garec pour remplacer Antoine Dupont.
Je pense qu'ils font trop confiance à Dupont. Je pense que c'est l'inverse.
Ah, mais après peut-être.
Non, mais oui, c'est pas qu'ils font pas confiance.
Là, c'est une confiance aveugle, parce que Antoine était à l'agonie la semaine dernière en fin de match. Mais comment tu t'en rends pas compte, ça, sur
la vérité, c'est qu'un joueur ne peut pas trop s'en rendre compte. C'est-à-dire que Dupont aurait dû lui-même dire je sors. Et je pense que c'est compliqué, c'est en Irlande.
Et puis tu sais qu'Antoine, il est capable, sur une fulgurance, même à la 75e, de faire une différence. Sans faire de parallèle un peu idiot avec le football, on ressent un peu la même chose avec Neymar, Mbappé, Messi. C'est-à-dire qu'on sait que ces joueurs-là peuvent faire une différence, une fulgurance, un exploit comme ça, en une seconde. Et face à l'Irlande, on n'est pas loin de faire basculer le match. À la 65e, on est encore à taille, même si on l'a dit, Denis, c'est une illusion, c'est le concours, un concours de circonstances, mais n'empêche que c'est la réalité. Et puis, est-ce que c'était vraiment un cadeau à faire à Nolan Le Garec de lui donner une première sélection dans le bouillon irlandais? Je suis pas sûr.
Non, mais là, c'était Couillou.
À Couillou, pardon.
Ouais, Le Garec, c'était en Italie.
Ouais, et je suis pas sûr que ce soit des cadeaux à leur faire. Après,
ouais, mais le match était perdu.
Tu as raison,
Pierre, c'est que c'est on le voit, et la comparaison avec le foot, peut-être pas avec les trois joueurs cités, mais la comparaison avec le foot est très vraie. Ce qui me marque aussi, regardez Paul Willemse quand il est remplacé, il demande à l'entraîneur pourquoi c'est moi qui sors. Paul Willemse, qui est quand même normalement réputé être super humble, même lui, les joueurs veulent rester sur le terrain.
Paul Willemse, je suis désolé, c'est pas à lui de dire je peux rester encore sur le terrain quand tu es concassé par l'Irlandais. Je suis désolé. Tu peux pas aller contre.
Quand t'es sur le terrain, Denis, tu te rends compte, tu réalises que tu fais un bon ou un mauvais match.
Toujours, bien sûr. Mais là, le problème, c'est qu'il a dû s'en rendre compte quand même qu'ils étaient bousculés.
Mais tu te dis, ouais, je vais me rattraper sur les les 5 dernières minutes, je vais faire un truc incroyable.
Non, mais bien sûr, t'as l'espoir de remonter, ouais. rentrer dans
même
la partie.
Même quand t'es deuxième ligne.
Oui, après.
Non, mais Phil MC est toujours coaché très vite. Hein. Là, il a été ouais. coaché plus vite que d'habitude, mais normalement, il fait 50 et 30, ouais, 60 et 20.
Mais c'est ça, c'est qu'il est sorti
c'est
trop tôt.
Il a
ouais.
été coaché plus tôt. Ouais. Lui, non, il estime en tout cas qu'il sort plus tôt par rapport à ce qu'il donne d'habitude.
Non, mais on peut pas pas taper sur Fabien Galthié et sur son staff, parce que là, sur la photographie du match, tu te dis, mais bon, il faut changer quelque chose, parce que
tu as plus cette possibilité parce que tu t'es enfermé dans tes certitudes. Oui. Le 6-2 qui fait que tu n'as plus de solution derrière pour faire des remplacements. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va assister à quelques changements dans le 15 des beginners, on dit
oui.
des finishers?
Zéro.
Oui, tu as raison.
Et deux avec Antonio.
Danti, ça dépendra de son
ressenti. On va en parler dans un instant. À part ça, ouais.
Moi, je dirais que comme ça, à l'instinct, sans info, sans. Je pense que Jaminet risque d'être titulaire sur les prochains matchs. Je pense que Ramos. Le signe qui a été envoyé avec sa sortie en Irlande, le discours de Fabien Galthié avant le début du tournoi et le fait que Jaminet rejoue beaucoup. Je sais pas, ouais, j'ai ce sentiment là. Peut-être que c'est une erreur, mais.
Pierre, je pense. Je, avant samedi soir, j'étais d'accord avec toi.
Ouais, mais Jaminet, tu crois que ça a tout changé samedi?
Il a des crampes. Ouais. Il a des crampes. Le match, c'est pas d'une intensité de fou, Toulon-Toulouse, et il a des crampes. Je pense que Galthié l'a remarqué.
Oui, mais
c'est que c'est contraire à la volonté de repossession et tu remets Jaminet, c'est-à-dire que tu remets du jeu. Et j'ai l'impression que remettre Jaminet, c'est repartir en arrière. Après,
non, je crois que c'est d'accepter le fait qu'aujourd'hui on a 10 mètres de moins dans le jeu au pied et qu'on peut pas jouer sur 10 mètres de moins.
Moi, je vais me surprendre. Moi, je pense quand même que Fabien doit se poser des questions par rapport à sans rentrer dans la discussion de possession des possessions, on s'en fout, mais contre l'Écosse, on sait que ça va envoyer du jeu, beaucoup de jeu, comme le dit très justement Pierre, je pense que le jeu au pied va être essentiel pour la gagne. Et moi je pense que Jaminet va jouer. Je le pense.
Ouais, moi aussi.
Grâce à la longueur de son jeu au pied.
Mais ça se trouve, c'est pas une certitude. Le seul truc, c'est que je suis d'accord avec.
Mais ce que dit Pierre-Laurent, c'est intéressant. Oui, c'est vrai, mais les crampes, j'avais pas pensé à cette.
Mais rappelez-vous que l'état de forme est assez secondaire par rapport au statut avec Fabien Galthié. Ouais, il l'a fait avec Cyril Bailly, il l'a fait avec Arthur Vincent, il l'a fait avec Olivon, il l'a fait avec Ntamack, il l'a fait avec Danti. Enfin, je veux dire, c'est une mécanique régulière quand même. Ouais. C'est pas, je tomberai pas de l'armoire.
Oui, mais c'est par le physique qu'on a pêché la semaine dernière. Donc à un moment, il faut aussi se réaliser les choses et changer les choses.
On a pêché aussi par le jeu au pied, on a aussi pêché
François
Darlet. Alors toi, t'es le pire critique de l'équipe.
Non, mais ce qu'il faut dire,
méchant, oui, évidemment.
Malheureusement pour Thomas Ramos, il a été vivement critiqué après le match.
Ouais.
Donc je sais pas là, est-ce que on va pas redonner sa chance à Jaminet qui a été quand même un grand chelem l'année dernière, qui a prouvé sa valeur. Moi je crois plutôt à un retour de Jaminet là.
Ouais, mais c'est un changement de philosophie.
Après, Denis, j'aurais tendance à aller comme toi, sauf que Fabien il aime pas changer énormément. Et là, il est déjà contraint de changer Antonio, donc pilier droit. Ouais. On peut penser à la place pour Falatea. Si l'entraînement à haute intensité mercredi se passe bien, les infos qui tournent, c'est que Danti va retrouver sa place. Oui. Et du coup, il se murmure aussi que Moefana pourrait être positionné. Moefana pourrait être positionné à l'aile à la place de Dumortier au niveau de la défense face à Van der Merwe. Et donc, ça fait 2 à 3 changements déjà. Je ne le vois pas.
Quelle cathédrale de verre formidable. T'as pas un joueur de Montpellier à nous vendre, Julien? Un arrière qui a un long jeu au pied.
Ceci dit, vous parlez de François Cross. Je ne vois pas comment François Cross bougera la hiérarchie en troisième
ligne. Non, oui. À
moins de faire sortir Aldrid, de considérer qu'il est fatigué.
Pas, tu puniras pas Aldrid contre l'Écosse.
Moi, je pense pas non plus. Qui est franco-écossais, au passage.
En plus. Alors, il y a aussi le cas des blessés. On a évoqué tout à l'heure rapidement le cas de Jonathan Danti. C'est vrai que les blessés, aussitôt revenus de l'infirmerie, sont à nouveau appelés sous les drapeaux et pas toujours avec bonheur. On se rappelle malheureusement de la mésaventure de Gabin Villière. Voilà maintenant que l'on rappelle Jonathan Danti, dont on craignait début janvier qu'il ne souffre d'une rupture du croisé antérieur du genou gauche et qui a miraculeusement récupéré au point qu'il a joué 40 minutes ce week-end face à Castres et qu'il a été aussitôt rappelé dans le groupe des 42. Jonathan Danti, qui a livré son sentiment à nos confrères de Canal+, à l'issue de la rencontre face à Castres. On l'écoute.
Voilà, 40 minutes, c'était bien. Je ne sais pas s'il aurait pu faire plus au fur et à mesure des matchs. Je pense que l'appréhension va s'effacer. Non, je pense qu'il y a des étapes et là, c'était la première étape aujourd'hui et j'en suis content. Pour l'instant, c'est le groupe des 42, donc on verra après. Je pense que tout le monde est conscient que, notamment même le club, quand on est équipe de France, il ne faut pas griller les étapes. Et le plus important, c'est que je sois sur le terrain en forme. C'est le plus important.
Il n'a pas très envie d'y aller, j'ai l'impression.
Il ne faut pas griller les étapes,
nous
dit-il. Bah, c'est sûr que quand tu es passé quand même à côté de la correctionnelle, hein, si c'était le croisé antérieur, c'est terminé pour la Coupe
c'est
du Monde.
C'est étonnant qu'il revienne aussi vite, mais bon, après...
il a fait des joueurs... 40 bonnes minutes.
Oui, hein. Il a fait 40 très bonnes minutes.
Oui, puis ça dépend de la personnalité de chaque joueur. Après, lui, c'est étonnant, mais en même temps, il est costaud. Et...
Ouais, mais tu as vu, il dit, attention, ne pas griller les étapes. Ne pas griller les étapes.
On va en revenir avec cette fameuse problématique du banc 6-2, c'est que si tu fais jouer Jonathan Danty et qu'il vient de jouer 40 minutes, ça veut dire que tu comptes sur lui 80 minutes, ou alors ça veut dire qu'il faut rechanger toute la ligne de trois quarts en cas de coaching. Et que du coup, c'est peut-être aussi un problème sur l'état de physique de Jonathan Danty. Et comme disait Pierre Lot tout à l'heure, je pense que l'entraînement à haute intensité de mercredi va décider de beaucoup de choses concernant Jonathan Danty et sa présence ou non dans le staff. C'est où il est titulaire, ou il ne sera pas dans le groupe.
On a aussi le droit d'avoir un banc qui change. Hein.
Aussi, oui, bien sûr, tu as raison.
Parce que j'ai du mal à imaginer l'équipe de France se passer de Jonathan Danty, même pendant 30 ou 40 minutes, parce qu'aujourd'hui, le système de jeu de l'équipe de France est basé sur sa capacité à avancer en tant que premier attaquant et sur ses contests au milieu du terrain. Je pense qu'il préfère l'avoir 45, 50 minutes et changer le banc que de ne pas l'avoir. Je ne sais pas, hein, peut-être que je
dis une bêtise. D'accord, tu changes ton banc.
Ouais, si
c'est mieux. S'il a rappelé Danty, c'est pour démarrer. Il n'y a aucune
incertitude. Il le rappelle avant le match quand même. Hein.
Oui, il le rappelle. Voilà, la liste est tombée vendredi. Ah, Denis a raison.
Mais non, mais c'est évident. Après, je pense comme Pierre, je pense qu'à partir du moment où il est indispensable 40 minutes, voire 50 minutes, et après tu le sors. Et donc tu changes ton banc. Tu mets peut-être en remplaçant...
Un ailier, du moment. Tu fais passer Moefana au centre.
Moefana qui passera au centre, oui. Mais je vois pas comment il va pas débuter ou démarrer.
Ou alors 6-2 avec Makalou qui rentre lié.
Je crois pas qu'on prend un trop gros risque avec ces blessés, les mecs qui reviennent à peine.
Tu prends toujours un risque.
Là,
mais
prendre un risque.
J'ai l'impression que Fabien est sous pression et qu'il a pas envie de perdre ce match et qu'avec Danty, il a des certitudes qu'il n'a pas avec d'autres joueurs. Et on sait très bien que contre l'Écosse, ça va taper au milieu avec Van der Meer qui va venir mettre le désordre et qui va venir défier nos centres où ça va être solide au milieu et finalement tu peux pas te passer
c'est ça qui est on est quand même messieurs dans une année de Coupe du Monde, la priorité c'est la Coupe du Monde, la priorité c'est le mois de septembre et on est dans l'urgence là, il faut surtout pas perdre deux matchs d'affilée autrement c'est la cata.
Parce que c'est le tournoi aussi Christophe.
On est en année de Coupe du Monde,
mais tu sais le problème c'est qui nous a mis le doute, c'est les Irlandais, ils ont tout remis en question alors qu'on était fort, on avait plein de certitudes. Oui, mais
salopard d'Irlandais.
Oui, non mais oui, mais la vérité, c'est que Fabien, il faut
tout allait bien et paf.
Mais Fabien n'a plus le droit de se tromper, comme il s'est un peu trompé en Irlande. Là, il a besoin quand même de rassurer tout son groupe, de rassurer aussi le public. Il le sait, il n'est pas dans une impasse, mais il doit gagner. Il doit gagner contre l'Écosse. Et ça, il le sait.
Julien.
Non, mais je pense que c'est le problème français, c'est qu'on a tout construit en 14 matchs, on se voyait déjà presque vainqueur de la Coupe du Monde. Et après, moi, je trouve que les critiques, elles remontent plus loin que ce match de l'Irlande. Oui, la tournée de novembre, elle avait été déjà difficile. On avait eu chaud contre les Sudaf, contre les Australiens, voire même contre les Japonais. Depuis plusieurs mois que l'équipe de France est un peu dans le dur, et on en revient à ce que disait Denis, physiquement cette équipe elle est dans le dur, et c'est vrai que la saison dernière on sortait d'une époque où les Français étaient plus reposés, et que là on sent que physiquement ils sont à l'agonie, et que peut-être que cette pause a fait du bien, mais que oui, c'est sûr que si on perd contre l'Écosse on va tout remettre en cause, et on est peut-être même capable de changer la charnière,
de changer l'entraîneur, sélectionneur, tu crois? Est-ce qu'on peut changer de sélectionneur en cas de deuxième défaite?
C'est vrai qu'on a oublié quand même qu'on sortait d'une période de Covid l'an passé.
Oui, mais ça, donc c'était
on n'a pas eu des organismes n'ont pas été poussés comme ils ont été poussés cette année. Ouais. Donc là, on a, je pense que les internationaux n'ont pas digéré le grand chelem. Non, mais ils ont eu du mal à digérer tout ça. Et puis bon,
Denis, où tu as raison, c'est que le staff aussi s'est trouvé surpris par l'intensité et le temps de jeu proposé par les Irlandais. Ils ne s'attendaient pas clairement en hiver à plus de 40 minutes de temps de jeu. On a jusqu'à 46 minutes de temps de jeu. La phrase d'Entamac, on l'a tous repris, où il avait, à l'issue du match, il dit nous, on était cramés, on avait l'impression que les Irlandais pouvaient encore jouer deux heures. Et ils ont été surpris par la fraîcheur physique des Irlandais qui, bon, dans leur système, jouent beaucoup moins que les Français et tout ça. Mais l'intensité proposée a vraiment à bousculer les certitudes du staff, et ils réfléchissent beaucoup là-dessus, à essayer est-ce que la norme va être plus de 40 minutes pour chaque match. De temps effectif, pardon.
C'est une volonté de World Rugby. Hein. Ouais. Donc, pour avoir discuté avec Alexandre Ruiz la semaine dernière, justement, sur les évolutions du jeu, il explique, lui, qu'il n'y a pas un changement de règles, mais une évolution et une dureté un peu plus sévère des arbitres, avec cette volonté de World Rugby, en tout cas pour la Coupe du Monde, d'approcher des 40-45 minutes de temps de jeu effectif. Et du coup, d'être beaucoup plus dur avec les défenses, d'avoir moins de dépossession. Je pense qu'il va falloir tendre, en tout cas, vers ces principes-là, de s'approcher des 45 minutes de temps de jeu effectif, si on veut espérer quelque chose à la Coupe du Monde.
Si on fait trois matchs de suite à 46 minutes de temps de jeu effectif, je pense que là, on ramasse des morts, hein, clairement, en finale. Là, ça va être des épaves. Hein, parce que vous avez vu l'état physique à la fin du match, que ce soit des Français ou des Irlandais. C'est pas Jojo. Imaginez qu'on refait le même crash test une semaine après, et un crash test avec une intensité et du stress, 15 jours en suivant. Là, je pense que ça va être.
Surtout
une...
que là.
Et puis, n'oublie pas les matchs de poule avec une. Poule Irlande, Afrique du Sud, Écosse. Donc en plus, eux, ils vont se farcir des matchs avant en poule. Non, mais ça peut être.
On peut avoir une Coupe du Monde magnifique, comme on peut avoir une Coupe du Monde un peu triste.
Oui, mais la Coupe du Monde, souvenez-vous, toutes les Coupes du Monde, t'as deux mois de préparation, ça change tout.
Ouais,
ça change beaucoup de choses.
Tu vas arriver à changer beaucoup de choses.
Mais les équipes arrivent beaucoup plus en frais que les autres.
On a moins de temps hein, quand même de préparation.
Ouais,
année, par rapport
deux, un peu moins parce que la finale, oui.
Bon, ça reste une page de préparation.
Bref, Jonathan Danty, qui pourrait donc, s'il est titularisé, être opposé à la formidable ligne d'attaque du 15 du Charles. Les Écossais, auteurs de 8 essais en 2 matchs, 2 victoires bonifiées qui leur permettent d'avoir 10 points, et qui rêvent d'une victoire dans ce tournoi, pourquoi pas d'un grand chelem. Est-ce que vous êtes surpris, messieurs, par le niveau montré par l'Écosse depuis le début du tournoi? Une équipe dont on dit qu'elle a souvent été victime d'inconstance.
Moi, je suis partagé. Partagé par rapport aux
adversaires?
Non, par rapport au match à Twickenham contre l'Angleterre, où là, j'ai vu quand même des Anglais, on n'a pas beaucoup parlé, qui maîtrisaient leur sujet, qui menaient 20 à 12 à 10 minutes de la fin du match, et après patatrac, ils ont fait n'importe quoi, ils n'ont pas géré la fin du match. Les Écossais ont fait une contre-attaque de 80 mètres qui vient de nulle part avec un essai de Van der Meer totalement hallucinant, mais bon, qui prouve que c'est un des meilleurs joueurs européens aujourd'hui.
Penaud, il a fait la même chose la semaine
dernière. Partagé parce qu'effectivement, ils font un exploit en Angleterre, mais ils ont quand même eu 65% de possession anglaise contre 35% écossaise. Ils s'en sortent un peu miraculeusement. Après, ils ont fait un gros match. Donc, ils ont réussi contre Pays de Galles, mais qui est fantomatique. Donc, on peut pas se baser sur cette rencontre.
Tu dis qu'on s'enthousiasme un peu trop vite.
Je
avec
dis
cette
qu'on
équipe.
Va voir si notre pack français est retrouvé. Je pense qu'on va voir un autre match et une autre rencontre. Et je vois pas comment on peut perdre contre les Écossais.
D'accord. Donc, vous êtes, messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec Denis? On a un trophée avec cette équipe d'Écosse.
C'est une équipe qui monte en puissance, qui est en train de trouver ses marques. Il faut pas oublier que leur tournée de novembre elle est pas mauvaise, ils ont été pas loin d'attraper la Nouvelle-Zélande, ils finissent à un point de l'Australie. Tu sens que aujourd'hui il y a un 15 qui se dégage, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, il y a des étrangers qui sont arrivés dans cette équipe et qui ont stabilisé notamment la mêlée, leurs deux piliers. Alors après ils ont Finn Russell qui est capable du meilleur comme du pire, mais je trouve que c'est une équipe qui monte en puissance et que tu avais l'habitude de les concasser devant, et que je suis pas sûr qu'on les concasse devant dimanche, et que derrière il y a des pattes, et que s'ils t'imposent des multiples temps de jeu, tu peux finir par craquer contre cette équipe là alors logiquement on devrait pas s'incliner, mais je trouve que c'est une équipe qui monte en puissance et qui va poser des problèmes dans cette poule à la Coupe du Monde, où je vous rappelle qu'ils sont avec les Irlandais et l'Afrique du Sud, et que tout le monde dit qu'on va jouer l'Afrique du Sud ou l'Irlande, mais attention à ces Écossais.
D'accord.
Tu as tout à fait d'accord avec Julien. Yann Borthwick, lors du Media Day de présentation du tournoi Destination, le sélectionneur anglais, disait que c'était l'équipe d'Écosse qui se méfiait le plus. Alors, c'était peut-être
c'était leur premier match.
Ouais. Non, mais sûrement. Mais il parlait déjà de cette vitesse de course et de cette vitesse, notamment chez les trois quarts. Et c'est vrai que depuis deux matchs, alors Denis a raison de modérer la prestation face aux Gallois, parce que les Gallois sont fantomatiques là, cette année. Mais face aux Anglais, ils finissent bien le match. Et face aux Gallois, ils sont quand même impressionnants. Leur vitesse d'exécution, notamment derrière, est impressionnante.
Ouais. Donc attention quand même, tout le monde ne partage pas le même avis. Pierre, tu vas faire l'arbitre?
Non, mais j'adore cette équipe.
Elle est très séduisante. Après,
c'est pour des équipes comme ça en fait qu'on paye pour voir des matchs, qu'on paye pour aller au stade. C'est pas pour voir des chandelles et de la bagarre, parce que ça, il y a des gens comme moi qui apprécient. Mais l'équipe d'Écosse est ultra enthousiasmante. Elle a une dynamique mais formidable. Ça fait 3 ans que on se fait jamais chier en fait avec un match de l'Écosse, même quand ils perdent. Non, et je trouve ça génial, et ils ont des joueurs que j'aime beaucoup, dont Finn Russell. je pense que voilà, ouais. Si j'étais gamin, j'aimerais beaucoup être Finn Russell. Quoi.
Tiens, Finn Russell, justement, qui a été épargné ce week-end, Laurent Travers, ne l'a pas fait jouer.
Il a fait du vélo un petit peu. Voilà.
C'est bien quand même, c'est sympa.
Bon, cette solidarité quoi, avec l'Écosse, c'est magnifique. Moi, je l'aurais fait jouer 80 minutes.
Mais oui,
je trouve qu'il faut souligner. Non, mais plutôt que se moquer, il faut souligner le fair play de vrai, Laurent Travers parce que c'est les aberrations de nos règlements où le 15 de France a pu préserver 21 joueurs ce week-end et notamment tous les titulaires. Et pas l'Écosse. Et puis et au final, il donne du temps de jeu à un jeune Français, Antoine Gibert, qui est mieux qu'une doublure. Et donc voilà, ça se passait bien. Il y avait Finn Russell qui était sur le banc au cas où. Moi, je trouve qu'il faut plus souligner le fair play de Laurent Travers, qui a pas eu besoin de Finn Russell pour battre le Brive. Pardon.
Non, mais après, il prépare aussi la saison suivante. On sait que Finn Russell va partir, que donner du temps de jeu à Gibert, c'est quand même pas crétin. Bon, il n'y a pas que, c'est pas que un bon Samaritain qui préserve Finn Russell pour qu'il fasse un grand match face à la France.
Jouer Brive, même si Brive a été très bon, voilà.
Tu prends moins de risques.
Je pense que s'ils avaient joué Toulouse, Finn Russell n'aurait pas joué un bout de match.
Mais c'est drôle que Finn Russell.
Mais
soit
Toulouse, pareil. Il faut souligner, si je souligne le fair play de Laurent Travers, il faut souligner le fair play du Gomola pour Capozzo et Willis, qui ont été laissés à disposition de leur sélection.
Mais c'est ça, mais c'est bien, nos entraîneurs français respectent l'équité et ne veulent pas favoriser l'équipe de France par rapport à leurs adversaires. Les Écossais qui comptent également dans leur rang le formidable ailier Duane van der Merwe, hein, qui aurait pu faire les beaux jours des Springboks, mais qui a opté pour le maillot frappé du Chardon. Ce van der Merwe, Julien, on en a déjà parlé tout à l'heure avec Denis, c'est vraiment de la dynamite, incroyable joueur avec cet essai face à l'Angleterre qui a régalé le monde du rugby. Hein.
Ouais, d'ailleurs, les Anglais l'avaient même comparé à Jonah Lemou, hein, ce jour-là, avec son doublé à Twickenham, notamment, tu l'as dit, cet essai de 55 mètres, où selon nos confrères, il a lomuisé la défense anglaise. 1m96, 106 kilos. Physique le plus impressionnant de tous les ailiers du tournoi. Monstrueux, qui va en plus vite, très vite, serial marqueur d'essai, 16 essais en 25 sélections, dont celui de la gagne en 2021. Au Stade de France contre nos Bleus. Et ce n'est pas un inconnu en France, notamment ici, à Montpellier. Il avait débarqué dans l'Hérault avec Jack White et tout un contingent, malheureusement pour lui, de Sud-Africains. Il y avait aussi une forte concurrence sur les ailes avec Nadolo et Naguza. Il avait peu joué 4 matchs, mais 3 essais, dont un match qui avait marqué les esprits du côté de Pau. Physiquement, il était déjà impressionnant à seulement 18 ans. C'est finalement en Écosse qu'il aura explosé grâce au flair de Cockerill qu'il a recruté et Townsend qu'il a lancé après que celui-ci soit éligible à la sélection. Né en Afrique du Sud, il avait même joué pour les Big Box comme un certain Paul Willemse. Depuis qu'il est en Europe, il a disputé 122 matchs pour un total de 62 essais, soit un essai tous les deux matchs. Et malheureusement pour les Bleus, il n'a pas marqué contre les Gallois. Il faudra donc être méfiant dimanche.
Ouais, méfie, hein, parce que ce garçon.
C'est un phénomène, ce garçon. Ah, ouais.
Ouais. C'est un phénomène qui ressemble à.
Vas-y, vas-y.
Je vais rajouter une stat à celle déjà très complète de Julien. Sur les deux premiers matchs du tournoi, il a battu 20 défenseurs.
Enfin, il en a battu 16 sur une action contre les Anglais.
Non, 8.
Ils ont dit toucher demain. Ils avaient dit toucher demain.
Si on dit la vérité, c'est 8. C'est 8 sur une seule action.
Mais il ressemble à un joueur contre lequel j'ai joué, qui pour moi était le meilleur joueur contre lequel j'ai joué, c'était John Kirwan. Il a le même gabarit, même vélocité, même explosivité et même rapidité. C'est un phénomène, ouais. John Kirwan était un phénomène et je pense que ce garçon-là, il est inarrêtable, quoi. Il fait partie de ces joueurs, de ces rares joueurs aujourd'hui qu'on ne peut arrêter, quoi. C'est...
Alors, Van der Merwe, bon, on l'a compris, est d'origine sud-africaine. C'est un étranger qui joue donc dans le 15 d'Écosse. Sur les 24 joueurs utilisés, j'ai trouvé ça dans Middle ce matin, les 24 joueurs utilisés par Townsend depuis le début du tournoi, 9 sont nés hors des frontières écossaises, ce qui fait quand même plus de 37% d'étrangers dans cette équipe, sans compter le staff, lui aussi composé d'un Gallois et d'un Franco-Sud-Africain nommé Peter de Villiers. Est-ce que ça vous choque autant d'étrangers? 37%, là, on est à plus d'un tiers quand même. Hein. Est-ce qu'on n'est pas au bout de, aux limites du système là?
Moi, ça ne me choque pas, mais ça me dérange quand même un petit peu. Après, je pense que je ne sais pas si dans le middle, on a compté Hugh Jones, qui est né en Écosse, mais qui a grandi et qui a tout appris en Afrique du Sud. Il y a Samuel Bergam et Jack Dempsey qui ne sont pas dans le groupe, mais qui y ont figuré depuis 3 ans. Ça, on monte au-dessus des 40%, là, tranquillement. Après, il y a deux trucs importants à savoir. C'est que l'Écosse a que 2 franchises à haut niveau, donc forcément pas énormément de joueurs de très haut niveau. Et surtout, si on compte les femmes, les enfants, les vétérans, les joueurs pro, les éducateurs, les arbitres, c'est 25 000 licenciés. C'est un miracle, l'Écosse. Donc, on va dire que philosophiquement, oui, je préférais avoir que des Écossais qui sont nés dans les Highlands, ouais, mais dans
qui
la
portent tous des kilts, voilà, leur famille, depuis trois générations.
C'est ça.
Ouais.
Mais dans la vérité des faits, c'est qu'aujourd'hui, bah, ils sont presque obligés pour
leur permettre. Non mais
c'est Pierre est historique. J'aime bien l'image de miracle, et c'est le miracle permanent. Et même déjà du temps de Denis. Alors ça passait, c'est comme on avait moins de stats, moins de fiches et tout ça, mais même du temps de Denis, les Écossais faisaient déjà appel, notamment
des Néo-Zélandais,
aux joueurs du Commonwealth. Et voilà, c'est
on peut tous des grands pères écossais.
On peut, voilà, on peut que le déplorer, mais bon voilà, c'est comme ça, l'Écosse.
Non, mais il a raison, Pierre, de dire c'est j'ai envie de dire heureusement qu'il y a ces joueurs-là, parce que ça donne une Écosse forte. Et que si tu enlèves ces joueurs-là, mais ça serait un autre.
Ça se comprend mieux finalement pour l'Écosse que pour des grandes nations telles que l'Angleterre, la France ou même la Nouvelle-Zélande. Oui. Parce que nous non plus, on n'a pas de leçon à donner. On a Willem C, comme Van der Meer va jouer chez les Baby Box. Et puis on nous parle du cas Meafou. Là aussi, on nous dit que peut-être il y aurait une possibilité.
Mais il n'est pas français. Si, il est français. Il va avoir son passeport
français. Il fait
longtemps
qu'il joue en France.
Il entame les démarches. Donc il n'est pas encore officiellement français.
Après, moi, il y a deux choses qui me dérangent, que je distingue. Par exemple, je trouve que Paul Willem C, moi, c'est la limite du système, c'est qu'il a joué pour les Baby Box. Donc, à partir du moment où tu joues pour une sélection, pour moi, c'est fini.
À tous les niveaux, même chez les jeunes.
Oui, d'accord. Oui, il a choisi pour jouer pour l'Afrique du Sud, jeune. Alors, après, l'Afrique du Sud lui a fermé les portes. Il est parti en Europe et il ne pouvait plus être sélectionnable. Et bien, à partir du moment où tu fais ça, tu fais une croix sur une sélection. Un joueur qui, comme Meafou, qui n'a jamais porté le maillot de l'Australie, qui se sent bien en France, pourquoi pas la première sélection lui est offerte par l'équipe de France. Alors, certes, c'est un étranger. Mais pour moi, il y a deux cas bien différents. Van der Merwe, qui a joué pour les Baby Box, il ne devrait pas pouvoir jouer pour l'Écosse. Je suis désolé.
Il y a pire. Il y a maintenant, avec les nouvelles règles.
Oui, les joueurs, avec ta première pays, ouais, c'est ça. De
par exemple,
de
Israël Folau va faire la Coupe du Monde avec les Tonga. Il a 80 sélections avec l'équipe d'Australie. Ça, pour moi, c'est un véritable scandale.
Dempsey, l'Écossais, a 14 sélections avec les Australiens aussi.
Oui, et pour moi, ils ont fait des choix. Parce que je peux comprendre qu'à 19 ans, t'es l'attrait, t'as envie de représenter ton pays de naissance, et puis les pérégrinations de ta vie font qu'aujourd'hui, je pense que Willem Zee, il se sent autant français que sud-africain.
Oui, bien sûr.
Donc ça me choque presque pas trop qu'il soit pour l'équipe de France. En revanche, dans la ligne de trois quarts de l'équipe d'Écosse, il y a des joueurs, je pense que l'Écosse, ils la connaissent depuis 3 ans et c'est tout. Et une fois qu'ils auront fini leur carrière, ils repartiront dans leur pays. Et ça je suis assez d'accord. Moralement, je suis moins convaincu. Ouais, convaincu par ces mecs-là.
Bon, il faudra faire avec Van der Merwe, notamment.
C'est les règles, exactement. Ils respectent les règles, on peut pas.
L'Écosse, qui est la dernière nation étrangère à s'être imposée au Stade de France. Hein. Rappelez-vous, c'était il y a deux ans, le 26 mars 2021, quelques mois avant que les Bleus n'entament leur série victorieuse. Ils sont capables, on l'a entendu dans la voix de Denis, de rééditer cet exploit. Non, Denis, non, tu crois pas. Tu crois qu'ils vont se faire taper. Non,
après, n'oublions pas, en mars 2021, c'était un match particulier. Hein.
Tout à fait.
Les Français devaient absolument prendre de gagner, je ne sais plus, de 14 points. Ouais, ils jouaient tout à la main et que du coup, à la fin, ils savent qu'ils ne peuvent plus gagner avec l'écart nécessaire et ils prennent ce ballon, ce contre. Voilà, c'est un match un peu particulier. Cette défaite-là, je dis pas que il faut l'oublier, mais c'était dans un contexte particulier qui faisait que les Français avaient un peu laissé tomber en fin de partie.
Tout va dépendre.
Parlez-en à Brice Dulin parce que c'est sa dernière sélection. C'est lui l'auteur de la relance un peu suicide. Et au final, après, on part en Australie avec Jaminet. Jaminet explose et puis voilà.
Et destin, il a perdu sa place, il se joue comme ça en une minute.
La clé du match, ce sera si on est capable de ralentir les sorties de balle écossaises. Si on les ralentit même un tout petit peu, on va les écraser. Et si jamais on n'y arrive pas, on risque de prendre vraiment 60 minutes de bouillon terrible. Et vu que physiquement, on n'est pas magique en ce moment, il va pas falloir leur laisser trop de ballons.
Oui, on a fait du frais.
Ouais. Oui, bien sûr,
on les a mis dans la glace.
Non, mais Denis a parfaitement raison. Pour la première fois, en fait, les joueurs la semaine dernière n'avaient strictement rien. Ils devaient juste ne pas partir à l'étranger, tout ça. Mais ils n'avaient aucune séance individuelle à faire. Il fallait vraiment, parce qu'ils avaient vraiment besoin, a priori, de se régénérer. Ils avaient besoin de récupérer.
Eh bien, on a hâte de voir ce que ça donnera. Rendez-vous donc dimanche 16h pour ce troisième match du tournoi pour l'équipe de France, le match du rachat ou de la sérieuse inquiétude en cas de défaite. Hein.
On commence déjà à se frotter les ailes le retour.
On prépare déjà le poste de partner entre les poteaux de la semaine prochaine. Il faut tout changer, tout est à jeter.
Voilà. Romain Ntamack au pilori, changeons le disque. Enfin, les discours habituels, on les connaît maintenant.
Astoy à l'ouverture.
Bon, Denis, tu es prêt pour dimanche? T'as fait du frais, toi aussi, là? C'est bon?
Oui, oui, c'est bon. Et Wilfried,
il en fait tout le temps du frais. Merci les garçons, à lundi prochain pour un nouvel épisode de votre podcast préféré. Vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, sur les bonnes plateformes de téléchargement. Bonne semaine, à lundi prochain. Ciao.